donc une petite demi-heure pour continuer, ça nous suffira largement pour continuer notre méditation sur la foi. Je vous propose de reprendre donc le numéro « La persévérance dans la foi ». Hein, vous avez tous pris vos... votre texte, reprenez-le si vous ne l'avez pas. Il y en a d'autres ici, il y en a que je crois qu'ils sont arrivés. Il y en a, si vous voulez en distribuer d'autres, il y en a là. Donc voilà, si la maison ne recule devant aucun sacrifice, donc, prenez-en, faites-en passer. Je crois qu'il y a des dames qui sont arrivées dans l'après-midi aussi. Donc, la persévérance dans la foi. La foi est un don gratuit que Dieu fait à l'homme. Ce don inestimable, nous pouvons le perdre. Saint Paul en avertit Timothée, « Combat le bon combat, possédant la foi et bonne conscience. Pour s'en être affranchi, certains ont fait naufrage dans la foi. Pour vivre, croître et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons nous la nourrir par la parole de Dieu. Nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter. Elle doit agir par la charité, être portée par l'espérance et être enracinée dans la foi de l'Église. » Ça aborde un aspect qui est important, je trouve, de la caractéristique de la foi, c'est le fait que cette foi-là, elle dure. Et que cette foi-là, elle est aussi fragile. Même si, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on a un héritage chrétien assez solide, et que voilà, depuis notre enfance, voilà, cette foi-là, elle a été présente. Il faut aussi dire, soit pour nous-mêmes, soit pour d'autres, de dire que les crises de foi, ça existe aussi, hein, dans le sens où on peut très bien avoir un moment de baisse, un moment de... Et souvent, ça peut arriver avec deux choses qui peuvent nous éloigner de la foi. Soit un bonheur, j'allais dire, excessif, hein, qu'il y a une bénédiction dans le mariage, comme ça, à un moment donné, que le bonheur ne vous éloigne pas de Dieu. C'est à un moment donné, je crois que c'est dans la bénédiction nuptiale, ça. Parce que les gens qui disent, voilà, tout va bien, voilà, j'ai pas besoin de Dieu, tout va bien. Hein, et donc, du coup, il peut y avoir une sorte de bonheur, d'autosatisfaction. Mais aussi, on le sait bien, les épreuves peuvent soit rapprocher, soit éloigner du Seigneur. Donc, il y a un combat spirituel pour garder la foi. C'est quelque chose que nous avons à entretenir, et des journées comme celle-ci sont vraiment un don aussi très important pour ça. Hein, et donc, du coup, d'avoir cette persévérance, être longanime, on parle de la charité qui est longanime, vous vous rappelez dans Saint Paul, là, la charité ceci, la charité cela, etc., elle n'est pas envieuse, bon, dans le premier aux Corinthiens, hein, elle est longanime. Longanime, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le souffle long, qu'elle ne s'épuise pas, et je crois que si la charité, elle a besoin d'être longanime, c'est-à-dire que ça travaille de longue haleine, on dit aussi, eh bien, c'est pareil pour la foi. La foi, elle peut aussi, comme nous ne sommes pas portés, encore une fois, par un tissu chrétien et une société où la vie de foi, de façon publique, peut s'affirmer tranquillement et du coup, on peut soutenir les uns les autres. Voilà, parfois, on se dit, mais est-ce que je mène vraiment le bon combat? Est-ce que je vois, par exemple, bon, plus parmi les jeunes que j'ai l'habitude de fréquenter, des grands jeunes, hein, des jeunes adultes, hein, comme on dit, des étudiants, des jeunes professionnels, ben certains se sentent déjà très isolés dans leur vie de foi, parmi les autres jeunes, vraiment les quelques rares qui parfois pratiquent. Hein. Il y a 1% de pratique, hein, quand on dit pratique, c'est une fois par mois, pour les 18-24 ans, hein, 1%. Donc c'est quand même pas beaucoup, et ils peuvent se dire, mais est-ce que c'est pas moi qui suis dans l'erreur, au fond? Parce que quand il y a 99% qui ne se sentent pas du tout concernés, et c'est là où il faut leur dire, bon, la foi, il y a un combat intérieur pour garder, il y a quelque chose qui peut la fragiliser, et du coup, nous-mêmes, nous mettre dans des situations où on va pouvoir nourrir, hein, c'est ce que dit le catéchisme, hein, jusqu'à la fin dans la foi, nous devons la nourrir par la parole. Hein, et demander au Seigneur qu'il augmente. Hein, augmente, j'ai foi, Seigneur, mais augmente en moi la foi. Hein, et c'est vrai que le fait de la nourrir, c'est l'exercer. On a dit ce matin que c'était une vertu, c'est-à-dire quelque chose qui demande la répétition des actes pour qu'elle puisse s'affermir. Et c'est vrai que la foi, sans être nourrie, eh bien, elle s'étiole, elle perd de son sang. Et sans la dimension de, c'est comme c'est évoqué là, la dimension enracinée dans la foi de l'Église. Une chose qui, ça m'avait beaucoup marqué justement, Benoît XVI au JMJ à Cologne, son enseignement avait porté sur la question de la foi, et il a dit, on voit aujourd'hui qu'il y a une forme de tentative de bricoler sa propre foi. Hein, on bricole sa foi, on fait, voilà, je prends ceci, je laisse cela, etc. Et il appelait ça du bricolage spirituel. Et à un moment donné, il dit, vous savez, une foi qui s'appuie sur le bricolage spirituel, c'est une foi qui est fragile. Parce que vient le moment de doute, le moment de l'épreuve, sur quoi je vais m'appuyer, si ce n'est sur une logique que j'ai moi-même construite. Et donc du coup, forcément, cette logique que j'ai construite, comme je suis moi-même en crise et comme je suis moi-même en difficulté, eh bien, je n'y trouve pas. Alors qu'au contraire, quand on s'appuie sur la foi de l'Église, eh bien, on s'appuie sur la foi de témoins. Et je crois que c'est une grande grâce de dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de ma propre imagination ou qui vient de ma propre intelligence ou de ma propre construction mentale. C'est des témoins. Et donc, je rentre dans cette foi de l'Église. Et ça, c'est un grand soutien. Le fait d'être en Église et de construire. Sinon, voilà, ça peut paraître plus satisfaisant, plus... facile à vivre, entre guillemets, de choisir sa propre foi, de la construire, de piocher ceci, de laisser cela, mais en fait, ça fragilise beaucoup plus. Hein, je dis ça aussi parce que vous pouvez avoir des personnes qui disent « ben non, ça je veux pas, ça si, etc. » D'accord, mais ensuite, rendez-vous dans quelques années, où est-ce que tu en seras de ta foi, que tu auras toi-même, qui sera ton image et ressemblance au fond. Cette foi-là, ben voilà, si à un moment donné tu es en difficulté, elle tient pas. Et donc, la question de la foi, et puis le texte fait aussi allusion à la connexion entre les vertus théologales, ce qu'on appelle les vertus théologales, c'est-à-dire foi, espérance, charité. Elle se nourrit aussi de la charité, la foi. Hein, elle montre-moi ta foi qui n'agit pas, hein, vous connaissez bien c'est la citation, là, je pense, de Jacques. La citation qui est marquée, Jacques 2, 14, 26. Moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Hein. Et elle est portée par l'espérance, hein, c'est dans Romains 15-13, voilà, c'est nous possédons, par la foi, nous possédons déjà ce que nous espérons. Et donc du coup, je crois que c'est cette connexion, ce qu'on appelle la connexion des vertus, c'est-à-dire que ça s'enrichit, ces vertus-là s'enrichissent l'une l'autre, hein, et des actes de charité, c'est-à-dire d'amour désintéressé, d'amour de Dieu désintéressé, mettent dans ma vie de foi et mettent dans ma vie d'espérance. Donc ça, c'est quelque chose qui se... Mais ça reste évidemment, hein, certains ont fait naufrage dans la foi, c'est ce que dit saint Paul à Timothée. Hein, voilà, c'est vrai qu'il y en a qui ont abandonné parfois par des contre-témoignages. Il ne faut pas non plus se cacher la réalité, qui ont abandonné parce qu'ils se sentaient trop seuls, parce que ils ont prié. Combien de gens, ça c'est étonnant, vous voyez ça avec ceux qui sont au catéchisme, ils ont prié pour leur grand-mère qui est malade, etc. Et moi j'entends des adultes qui reviennent ensuite à l'âge adulte, on me dit, mais pourquoi vous avez laissé tomber la foi? Ben, j'avais prié pour que ma grand-mère, elle soit sauvée, et elle est morte. Mais il avait prié quand il était au catéchisme. Vous voyez, et donc du coup, c'est important quand vous dites, quand vous formez à la prière, et que vous dites, voilà, pour qui on va prier, etc., de dire, ben, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas parce qu'on a la foi qu'on a une assurance vie, hein, contre les épreuves, loin de là. Donc ben, voilà, mais certains le pensent un peu comme ça, comme assurance vie, tout va aller bien si je crois. Donc je crois que c'est bien aussi d'avoir cet éclairage, en tout cas, de dire, ben voilà, c'est le fruit d'un combat, et d'un combat jusqu'à la fin, hein, comme on appelle la persévérance finale, hein, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Il peut y avoir des grands combats, peut-être vous accompagnez certains d'entre vous, des mourants, ou dans vos familles, etc., des personnes très angoissées, très, au niveau de la mort, justement, et qui se mettent à douter, ou au contraire, qui se mettent dans des attitudes de scrupules, ben voilà, il y a aussi un grand, le combat de la foi se vit aussi jusqu'à la fin. Et d'où l'importance, justement, la Vierge Marie a eu à livrer un combat de la foi. Elle a grandi dans sa foi aussi, comme tout un chacun. Et quand on invoque la Vierge Marie de prier maintenant et à l'heure de notre mort, c'est pas simplement machinalement, c'est de dire que c'est vrai que l'heure dernière est une heure clé, parce que c'est l'heure dernière, c'est vraiment, il peut y avoir des moments de doute, on peut être attaqué plus particulièrement, hein, d'où l'importance d'être accompagné à ce moment-là. Et puis pour un autre point qui est intéressant, donc la foi, commencement de la vie éternelle, la foi nous fait goûter comme à l'avance la joie et la lumière de la vision béatifique, but de notre chemin ici-bas. Nous verrons alors Dieu face à face, tel qu'il est. La foi est donc déjà le commencement de la vie éternelle. Ça, je crois que ça, c'est vraiment important, ça, de se dire que l'éternité, elle ne commence pas avec notre passage par la mort. L'éternité, déjà, on perçoit quelque chose déjà dès maintenant. Et je trouve ça très... Ça donne, comment dire, une dimension à notre vie, ça donne une force à notre vie, ça, une profondeur, comme une forme de gravité, on peut dire, à notre vie. Les actes que je pose maintenant retentissent dans l'éternité. Ces actes-là, je crois que c'est, voilà, c'est, hein, et de ce fait-là, le fait des actes de foi, c'est déjà posséder ce qu'on espère. Donc c'est par la foi, c'est ça, je possède ce qu'on espère. Donc et on voit bien les saints, par exemple, beaucoup de saints. On dit, ben voilà, il y a particulièrement des mystiques, c'est-à-dire des personnes qui avaient des grâces de vision de l'au-delà, comme notre père fondateur, le père Lamy. Eh bien, il disait, il y a l'épaisseur d'un papier à cigarette entre le monde visible et le monde invisible. Hein? Et pour eux, déjà, dans la foi, je peux toucher quelque chose de ce que je veux vivre. Et alors, pas de façon mystique, sauf cas particulier, mais dans la foi. Et je crois que Marie, est-ce que Marie a eu, j'allais dire, des apparitions, elle a eu une vie de foi habituelle, de son ange par exemple, elle a eu l'apparition de l'ange Gabriel bien sûr, mais ensuite dans toute une vie, vivre uniquement par une rencontre qui illumine toute une vie, il faut quand même le faire. C'est une jeune fille, on pense qu'elle avait 15-16 ans à ce moment-là de l'Annonciation, et puis y a plus, en plus après ça a été la vie habituelle du chrétien. Et je trouve que de ce fait-là, elle nous donne aussi l'exemple d'une persévérance dans la foi, en particulier face à la croix, face à l'absurde de la souffrance de Jésus. Et puis, ça continue en disant « Tandis que dès maintenant, nous contemplons les bénédictions de la foi comme un reflet dans un miroir, c'est comme si nous possédions déjà les choses merveilleuses dont notre foi nous assure qu'un jour nous en jouirons. Maintenant, cependant, nous cheminons dans la foi et non dans la clairvision, hein, la deuxième Corinthiens, et nous connaissons Dieu comme dans un miroir d'une manière confuse, imparfaite, lumineuse par celui qui est en qui elle croit. La foi est vécue souvent dans l'obscurité. La foi peut être mise à l'épreuve. » Oui, parce que si on nous donne de cheminer dans la foi, et si on nous donne de découvrir au fond que on a déjà les réalités célestes, on a déjà cette certitude ne serait-ce que dans l'Eucharistie par exemple, qui est le mystère de la foi par excellence, dans l'Eucharistie que vous allez célébrer là tout à l'heure, on possède déjà ce que nous attendons, mais on le possède dans la foi. Donc ça nous donne déjà un accès. On parle souvent des saints comme ceux qui voient l'invisible déjà. Donc je crois que c'est bien de nous-mêmes de dire voilà, cette vie éternelle à laquelle on aspire tous, à laquelle nous sommes appelés, nous ne croyons pas que ça se termine avec cette vie terrestre simplement. La foi nous donne d'ouvrir une porte, c'est ça, hein, c'est le pape Benoît XVI le document qu'il a fait pour commencer cette année ce de la foi, l'a appelé Porta Fidei, la porte de la foi. Et pour ceux et celles qui vont en messe en semaine, on a lu ce passage-là mardi. Hein, mardi, on a dit, les païens, il faut donner aux païens de pouvoir ouvrir la porte de la foi. Et le document, ça vient de cette partie-là, Porta Fidei, la porte de la foi. C'est-à-dire qu'on pousse la porte pour entrer dans le monde de Dieu. Un peu comme, alors je sais pas, on va voir votre culture cinématographique. Vous avez été voir le monde de Narnia. Mais qu'est-ce que vous faites? Sortez de votre monastère le dimanche, hein. Sortez de quelque chose. Le monde de Narnia, le monde de Narnia, ben, je vous conseille absolument d'avoir... Bon, est-ce que vous avez été voir Le Seigneur des Anneaux? Bon, mais ça, c'est un peu plus long. Bon. Le monde de Narnia, figurez-vous, alors ce n'est pas dans le catéchisme en direct, mais c'est un monde, c'est tout à fait sympathique parce que, en fait, c'était fait dans un but catéchétique. C'est un peu sous le mode imaginaire, sous le mode un peu mythologique, mais avec des réalités. Voilà, on parle pas de Jésus, on parle, etc. Mais, et entre autres, c'est assez intéressant, c'est que c'est des enfants qui rentrent, en fait, sont dans une maison, mais ils jouent à cache-cache, et à un moment donné, ils se retrouvent dans une armoire, et dans cette armoire, ils poussent le fond de l'armoire, et ils se retrouvent dans un autre monde, où il y a des animaux qui parlent, où il y a des elfes, où il y a, etc. Bon, c'est toute une imagination formidable, etc. Bon, et du coup, je trouve, ça parle aussi du monde de la foi, Et ensuite ils reviennent dans la maison. Ça, vous pourriez faire ça avec les jeunes, ça, en tout cas en partie, parce que c'est assez long, hein, il y a plusieurs épisodes. Et donc, mais du coup, c'est assez intéressant parce que le monde de Narnia, ensuite ils reviennent et personne n'y croit. Personne n'y croit. Mais non, ben, ça va pas. T'as fait quoi là? Tu t'es où là? Et je trouve, et en fait, ça a eu un but clairement catéchétique. À un moment donné, il y a un lion aussi. Il y a une histoire avec un lion. Un lion qui meurt, mais qui ensuite revient à la vie. Et donc, c'est l'image du Christ, etc. Donc, c'était clairement dit par l'auteur. C'est qu'il a dit que nous, voilà, je voulais quelque part dire quelque chose de l'évangile, mais avec un autre regard qui soit pas des histoires de la vie de Jésus, parce que malheureusement parfois il faut avoir un peu plus d'imagination pour que les enfants captent 2-3 trucs. Et donc du coup la foi, bah, c'est un peu ça aussi, c'est rentrer, alors toute proportion gardée, hein, mais ça peut faire comprendre quelque chose de ce qu'on a accès, parce qu'on parle de la Vierge Marie, qu'on parle des anges, qu'on parle des saints, etc., des archanges. Pour beaucoup de gens, ils nous prennent pour des moitiés fous, quoi. Je veux dire, c'est... Ils nous disent, mais bon, vous croyez encore à tout ça, etc. Bon, hein. Et je trouve que ça, c'est une manière d'illustrer un peu vos catéchèses et avec les enfants, qui est assez porteuse, justement, de retravailler ça. Ben, du coup, voilà, on a accès à... On ouvre la porte dans la foi, ça ouvre la porte vers autre chose. Vers quelque chose qui n'est pas simplement le visible, parce qu'on sait qu'en nous-mêmes, on a une aspiration à quelque chose de plus grand. Hein, le début du catéchisme de l'Église catholique commence, voilà, l'homme est fait pour Dieu, il est capable de Dieu. Alors, on essaie de bourrer de matériel, de bourrer des tas de choses pour effacer cette aspiration, cette soif de Dieu. Hein, on essaie de l'effacer comme avec le matériel, mais bon, mais elle revient. On s'en rend pas forcément compte quand on est enfant, quand on est jeune, mais c'est après coup que ça revient souvent. Qu'on a fait le tour de tout le matériel et qu'on arrive vide et que ça n'a pas rempli notre désir de Dieu. Hein. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur n'a le désir de repos tant qu'il ne demeure en toi. C'est saint Augustin qui dit ça. Voilà, c'est vrai, on est fait pour Dieu. Et la foi nous donne accès aux réalités divines. Ben voilà, je crois que c'est la porte. C'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose, sur tout le monde de Dieu. Et j'allais dire, plus on rentre dans cette dimension de foi, plus on se livre au Seigneur, plus lui-même se manifeste à nous. C'est-à-dire, plus il nous dit qui il est, plus il... vous voyez, c'est plus on croit en lui, plus il peut se dire à nous, plus il nous parle dans sa parole, plus il se manifeste dans les signes et dans le quotidien. Je crois qu'il y a cet échange, cette respiration justement dans la foi, et qui est assez belle justement. C'est pas un sens unique, c'est Dieu aussi qui nous parle, qui peut agir dans notre vie parce qu'on lui laisse la possibilité. Parce que la foi, c'est justement, ça permet de dire au Seigneur, voilà, agis aussi dans ma vie. Hein, et de s'en remettre aussi à lui. On continue un peu notre parcours. Maintenant, cependant, nous cheminons dans la foi. La foi peut être mise à l'épreuve. Le monde en lequel nous vivons semble bien souvent loin de ce que la foi nous assure. Les expériences du mal, de la souffrance, les injustices, de la mort paraissent contredire la bonne nouvelle. Elles peuvent ébranler la foi et devenir pour elle une tentation. Vous savez, ça m'a beaucoup marqué, là c'était au JMJ à Madrid, ça m'a beaucoup marqué la prédication de Monseigneur Léonard. Je ne sais pas si vous connaissez Monseigneur Léonard, qui est l'archevêque de Bruxelles-Malines, donc en Belgique, et qui dit au fond, qu'est-ce qui est le grand obstacle à l'évangélisation, c'est le mystère du mal. C'est le mystère du mal qui fait que, ce dont parle le texte, l'injustice, la mort, l'expérience de mal, de la souffrance, etc., c'est certainement un obstacle. Hein, si tu es, où est-il ton Dieu, hein, c'est comme dans les psaumes à un moment donné, où est-il ton Dieu, où est-il ton Dieu, hein, hein, où est-il ton Dieu, c'est Elie Wiesel. Elie Wiesel, ça vous dit quelque chose? Elie Wiesel, donc qui était dans les camps de concentration, qui disait, après l'expérience des camps, je ne peux plus croire en Dieu, mais après l'expérience des camps, je ne peux plus ne plus croire en Dieu. C'est-à-dire que à la fois, où est-il ton Dieu? Il est là. Il est aussi là. Et surtout le Dieu des chrétiens. C'est un Dieu qui se laisse toucher par le mal, l'injustice, la mort. Et c'est vrai que c'est ce Dieu-là qui, quelque part, rend, bon, sans parfois des choses inacceptables, etc. Mais nous fait, la foi nous fait découvrir que dans l'absurde, quelque chose du mystère. Vous voyez, je pense que ça nous donne, même si c'est pas facile pour nous, même s'il y a des choses qui nous révoltent, c'est inévitable, la mort de l'innocent, de la personne qui est trop vite fauchée en pleine force de l'âge ou dans l'enfance. Bon, du coup, je crois que c'est important de se dire que dans la foi, on découvre dans cet absurde-là, une part de mystère, parce qu'on croit aussi que Jésus, d'une manière ou d'une autre, y participe. A vécu ça, en tout cas, il a vécu l'injustice, le poids de la souffrance, le poids. Et ça, je crois que c'est une grande force de notre foi, en tout cas chrétienne, de dire que c'est un Dieu qui ne reste pas, qui n'est pas aseptisé, qui n'est pas loin des réalités du mal, je veux dire, dans le sens qui n'est pas. Qui ne reste pas indemne par rapport au mystère du mal qui nous touche. Vous comprenez? C'est important de dire ça. Je veux dire, parce que quand quelqu'un te dit, pourquoi ça, nous croyons en un Dieu, Jésus, qui lui aussi s'est laissé atteindre par le mal, lui aussi s'est laissé atteindre par l'absurde, et l'injustice et la violence, etc. Donc je pense que c'est là. Mais il ne faut pas perdre de vue que ça reste quand même le grand obstacle de notre par rapport à l'évangélisation, c'est ce mystère du mal qui semble triompher, etc. Et un dernier point qu'on avait déjà lu ce matin, donc je ne vais pas m'étendre, hein, c'est alors que nous devons nous tourner vers les témoins de la foi, Abraham qui crut, espérant contre toute espérance, la Vierge Marie qui, dans le pèlerinage de la foi, est allée jusque dans la nuit de la foi, en communion à la souffrance de son fils et à la nuit de son tombeau, et tant d'autres témoins de la foi. C'est vrai que ça nous a... c'est les témoins, les saints nous aident beaucoup dans la foi, parce que justement, ils disent, eux l'ont vécu, justement, on monte sur les épaules des saints, sur les épaules des géants de la foi pour voir plus loin, puis pour se soutenir, hein, enveloppé dans une si grande nuée de témoins, hein, c'est la lettre aux Hébreux, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, Jésus. Voilà, 45. Non, c'est pas dans le texte. Donc, voilà, mes amis, donc c'est à, n'hésitez pas à le retravailler, j'espère avoir été à peu près audible en tout cas, parce que c'est pas toujours facile le catéchisme à décoder. Et maintenant, vous avez, alors je sais pas si il n'y a pas de temps de questions, non, c'est un temps pour l'une ou l'autre question, peut-être, rapide, parce que vous devez avoir la messe, il faut vous y rendre aussi.
Étant à la maison de retraite, et n'ayant pas grand-chose à faire le matin, et je me réveille très tôt, je regarde Catéo.
Oui, ça c'est une bonne chaîne, c'est bon, Catéo, alors, vous pouvez regarder Catéo, oui.
Je regarde toutes les discussions qu'il y a, tous les témoignages,
oui,
aussi bien d'acteurs qu'on connaît et de choses, mais qui ont une foi,
oui,
en eux,
oui, oui, oui,
incroyable,
oui,
et qui essaient justement
de la transmettre,
de la faire, d'accord, rayonner. Mmh. Et je crois que tous les matins, quand on lit une parole de l'Évangile, mmh, je lis la messe, j'y vais quand je peux, quand on peut me conduire, mais quand on lit l'Évangile, ça apporte énormément, énormément. Voilà ça. On sent que, par sa parole, Jésus est là. Jésus est près de vous et on l'a en,
oui, nous
en
soutient.
Soi.
Merci pour ce témoignage.
C'est Dieu qui est notre créateur. Voilà.
D'accord.
Et la Sainte Trinité demandait, Jésus, Dieu c'est la gloire, et Jésus nous montre le chemin par les paroles que Dieu lui a fait dire, et la Sainte Vierge, pour moi, j'essaie de suivre son exemple.
Oui, oui, oui. Merci. D'autres des questions? Vous avez des questions peut-être? Oui?
C'est par rapport à ce matin que j'ai eu le temps d'un peu réfléchir. La foi et l'intelligence. Enfin, personnellement, je trouve que ça n'a aucun rapport.
Ah bon.
Il n'y a rien à comprendre dans la foi.
Ah, voilà.
Il faut se laisser saisir, prendre. Si on comprend quelque chose, ce n'est plus la foi.
Ah, alors, oula. Si, il y a quelque chose à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a affaire. Alors, quand on dit l'intelligence, ça ne veut pas dire qu'on va démontrer à la manière des sciences, parce que c'est vrai que si on commence à démontrer la foi à la manière des sciences, c'est pas mieux de la foi, par définition. Maintenant, quand ce qui est dit dans le catéchisme, que la foi, elle est dans l'intelligence, hein, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? C'est l'intelligence de la foi, c'est-à-dire je fais le lien entre les mystères qui me sont, je travaille, par exemple, de voir qu'il y a un lien, par exemple, entre la Trinité et l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, par exemple, commence par l'invocation de la Trinité. Il y a un lien entre l'Eucharistie et la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est celle qui nous a donné le corps du Christ. Donc, du coup, vous voyez, c'est un peu faire travailler son intelligence pour comprendre. C'est surnaturel, mais c'est pas irrationnel, la foi, parce que sinon il y a une, je vais dire, une cohérence interne au mystère de Dieu. Alors c'est vrai ce que vous dites, il faut se laisser saisir, ça c'est vrai. Je crois que c'est une première étape.
Le mystère, vous l'avez déjà dit.
Oui, oui. C'est un mystère.
On comprend pas le mystère.
Alors le mystère reste le mystère, mais la foi me donne ensuite, dans le mystère, la Trinité, je ne comprends pas, mais une fois que j'affirme et je crois en la Trinité, il y a des tas d'autres choses qui sont possibles. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer, par exemple? Ben, la Trinité, alors c'est un mystère, ça, je peux pas démontrer la Trinité, ça c'est impossible. Mais en revanche, à partir de ce mystère de la Trinité, je peux faire travailler mon intelligence, et dire, Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes divines différentes, avec des missions différentes, et en même temps qu'ils font un seul Dieu, est-ce que ça ne veut pas dire aussi, et ce Dieu-là, il est amour, est-ce que ça ne veut pas dire que ce Dieu amour a besoin aussi de se nourrir de nos différences, et que la différence n'est pas une menace à l'amour? Mais ça, c'est le travail de l'intelligence, ce qu'on appelle la théologie. La théologie, ça ne veut pas dire, je ne vais pas prouver la Trinité, ça c'est impossible, j'ai foi, paf, parce que Jésus me l'a dit, hein, mais je vais, à partir de ça, à partir de ce donné, faire travailler le gingin, si j'ose dire, pour dire, voilà, est-ce que ça éclaire pas d'autres parties? Est-ce que, la messe, par exemple, la messe, il y a la dimension de la Trinité dans toute la messe. Mais prouvez-moi que c'est le corps du Christ, on ne peut pas le prouver, ça, c'est la foi. Mais vous voyez, c'est pas du même ordre. Je rentre dans la foi et donc, du coup, je rentre dans un monde où là, je peux faire des connexions avec mon intelligence. Mais pour rentrer dans ce monde, il y a un moment donné à l'accueillir tel qu'il nous est révélé par Jésus. Quoi. Je sais pas si c'est à peu près. Oui, oui, clair. Un cheminement de compréhension. Croire, c'est ce qui est, croire pour comprendre, comprendre pour croire. Hein. C'est ah, du coup, tac, je fais le lien. C'est ça, c'est plutôt ça. C'est. Ah bah tiens, ça me fait le lien avec ça, tiens. Ah bah tiens, ça me fait le lien, je commence un peu à me dire, tiens, c'est pas, on me demande pas de croire à des choses complètement irrationnelles. Il y a une cohérence, il y a un lien, il y a une intelligence de la foi. Quoi, c'est un petit cheminement, du coup avec la parole de Dieu qui s'éclaire aussi l'une l'autre, cette parole. D'autres questions si, oui, oui.
Pour compléter ce que vous venez de dire, oui. Est-ce que je peux expliquer la Trinité par l'essence de l'esprit dans le fait où il y aurait comme l'eau, le glaçon, l'eau liquide et le gazeux?
Oui, alors là vous donnez une image.
Oui, c'est pour,
mais oui, c'est pour un peu expliquer. Mais ça reste qu'une image, si vous voulez.
Bien sûr.
Alors bon. Maintenant, ça ne me donnera pas la foi à la Trinité.
Ah non.
Enfin, le glaçon, le gazeux et le liquide, bon, alors je ne sais pas qui est le liquide là-dedans, mais si vous voulez, maintenant on se sert des images qu'on peut, et puis...
C'est la même essence de foi.
Oui, d'accord, oui, d'accord, mais ça ne me donnera pas la foi, on se sert d'images. Mais là, ce dont on parle, l'intelligence de la foi, c'est, je pars du donné révélé et je travaille dessus. C'est-à-dire, j'essaye d'approfondir. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas déjà des marques de la Trinité? Tiens, je vous pose la question. Donnez-moi des figures de la Trinité dans l'Ancien Testament. Hein?
La visite à Abraham.
Bien, bingo.
La Genèse,
déjà. Expliquez Genèse. C'est grand, la Genèse. Ah, oh mais non, mais vous, non. Vous êtes hors circuit, là. Alors, la Genèse, le texte de la création. Alors, la Trinité dans le texte de la création. Allez, hop, hop, hop. Allez, il faut que ça percute, là. La Trinité dans le texte de la création, c'est voilà. C'est ça, la foi, c'est voilà. Qui a créé? Dieu, le Père. Et puis ensuite, et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Et comment est-ce qu'il a créé? Attendez, comment est-ce qu'il a créé Dieu?
Avec de la terre.
Non,
la terre,
non, terre, non,
il a...
non.
Il a dit le verbe.
Non, il a dit, et Dieu dit. Et Dieu dit, et dit, c'est le verbe. Et le verbe s'est fait chair, donc c'est ce verbe, le verbe, voilà. Et ensuite, l'esprit était sur les eaux, etc. Voilà. Père, Fils, Saint-Esprit, hop. Voilà, du coup, vous dites, déjà dans la création... Ça, on a fait de la théologie bah, rapide, mais... ah oui, d'accord, déjà dans la création. Et pourquoi est-ce qu'il dit « créons » Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas « je crée » et c'est « créons l'homme à notre image » Pourquoi il dit « notre image » S'il n'y a qu'un seul Dieu.
Oui.
Voilà, donc, bon, vous voyez, c'est un peu de... Si on rentre là-dedans, bah, du coup, vous trouvez la Trinité à chaque page. Bon, peut-être pas à chaque page, mais bon, vous la trouvez souvent. Maintenant, on peut faire la même chose avec la Vierge Marie, on peut faire déjà avec Jésus. Bon voilà, on fait travailler son intelligence et on se dit, voilà, comment est-ce qu'on peut, déjà dans l'Ancien Testament, découvrir des voilà. On arrête là pour que vous ayez la pouvoir au moins aller à la Sainte Messe, donc qui est à la Grande Chapelle, ça, hein, où vous êtes allé ce matin.